En direct et en public, Benoît Bouscarel.
Eh oui.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. C'est vendredi, c'est le club des idées du grain. La gauche, la droite. La gauche, la droite. Voilà deux mots dont on avait presque fini par oublier la façon de les prononcer à force de ne plus les utiliser. C'est que l'une comme l'autre ne devait pas résister au bouleversement politique de 2017. Effacer les anciens clivages, place aux nouvelles confrontations, europhile contre eurosceptique, populiste contre antipopuliste. Alors les prévisions, quelles qu'elles soient, étant faites pour être démenties, il va falloir réapprendre à articuler les deux termes. Séance d'orthophonie obligatoire, car la droite bouge encore, car la gauche n'est pas morte. Si le paysage partisan a bien été bousculé, les valeurs qui appartiennent à l'une et à l'autre sont toujours constitutives du débat politique. Alors où en est le clivage gauche-droite ? Eh bien, c'est autour de cette discussion que nous allons passer les 40 prochaines minutes en compagnie d'Aude Lancelin. Bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste pour Le Média, pour Le 1. Vous avez publié il y a quelques semaines La pensée en otage aux éditions Les liens qui libèrent. Philippe Manière, bonsoir.
Bonsoir.
Consultant. Vous êtes par ailleurs éditorialiste au magazine Challenge. Et puis une invitée, comme souvent désormais dans le club des idées, c'est Catherine Goliot. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au Point, rédactrice en chef des hors-séries du magazine. Et c'est à cause ou grâce à votre hors-série que nous avons choisi le thème de ce soir. Nous sommes d'ailleurs en partenariat avec vous. La droite, la gauche, les grands textes. Est-ce que l'idée de ce hors-série, c'était de dire... peut-être aux générations futures, voilà ce que c'était que d'être de gauche et voilà ce que c'était que d'être de droite. Est-ce que c'est hors-série une valeur testimoniale ou bien est-ce que c'est parce que vous considérez que ce clivage-là et ces appartenances-là, elles sont toujours d'actualité ?
Bien, je pense qu'elles sont toujours d'actualité, qu'il peut y avoir des bouleversements politiques, des élections qui amènent des changements profonds dans les partis, mais ça ne veut pas dire que les valeurs en elles-mêmes évoluent. Elles sont là et surtout les sensibilités sont là. Donc ce que nous avons essayé de faire dans ce hors-série, c'est de présenter des textes qui sont à la fois des textes qui ont été influents et qui souvent le sont toujours, même si pour certains, par exemple comme Joseph de Maistre, évidemment le soutien à la monarchie est un peu en perte de vitesse aujourd'hui. Mais ce sont des textes qui restent, pour faire un peu de psychanalyse, dans la psyché collective, et que l'on retrouve dans le discours des uns et des autres à un moment donné. Et donc, quelles que soient les modifications purement politiques, et là, évidemment, en 2017, c'est la force d'En Marche qui a quand même bouleversé beaucoup le jeu, même au sein d'En Marche, on se rend compte qu'il y a des clivages et des gens qui se retrouvent plus ou moins dans certains courants. Et comme par hasard, ces courants, ça relève plus ou moins de la droite ou de la gauche.
Alors, on aura évidemment l'occasion, dans le cadre de cette émission, de voir ce qui, en termes de valeurs et de références historiques, continue à irriguer, justement, ces familles qu'on qualifie encore de droite et de gauche. Mais puisqu'on évidemment on a évoqué ces bouleversements politiques de l'année 2017, est-ce que quasiment un an après l'élection présidentielle, vous considérez, Aude Lancelin et Philippe Manière, qu'il y a encore en France une droite ou des droites peut-être d'ailleurs? Et la même question pour la gauche ou les gauches, Aude Lancelin.
Oui, évidemment. Je pense que, bien sûr, une bataille idéologique essentielle même est en train de se jouer autour de la négation du clivage gauche-droite qui est tout à fait intéressé. Nier le clivage gauche-droite, c'est vouloir imposer une vision gestionnaire de la politique, c'est vouloir mettre les marchés en position de décider des politiques publiques, c'est vouloir de façon intentionnelle retirer la substance politique même de notre vie publique. Donc, d'une certaine façon, à cet égard, le macronisme est l'aboutissement de dizaines d'années d'effacement intentionnel de ce clivage-là, notamment par la gauche de gouvernement. Qui n'a cessé de se rapprocher des politiques économiques de droite. Je pense qu'on en parlera plus tard, mais je pense que ça nous met tous dans une situation assez dangereuse.
Donc c'est plus une disparition de la gauche et de la droite, alors qui n'est pas complète bien entendu, mais qui serait une disparition dans le discours, dans un certain discours politique, voire médiatique, qu'une véritable disparition. Hein.
Absolument. Je pense que c'est en réalité le socialisme de gouvernement qui est en train de se décomposer définitivement et pas la gauche en tant que pensée et source d'inspiration politique.
Philippe Manière, y a-t-il encore une gauche et y a-t-il encore une droite en France aujourd'hui et sont-elles incarnées par des personnalités, par des formations politiques ?
Enfin, pour répondre à votre question d'un point de vue factuel, il ne reste plus grand-chose. Regardez le Parlement. Il y a une gauche et une droite réduites à leur plus simple expression. Et le Parlement est la vie politique, puisque l'exécutif émane du Parlement et que, en plus, la légitimité élective du président Macron est là pour le renforcer. Tout ça aboutit à un paysage où il y a une espèce d'énorme centre avec une gauche et une droite qui sont réduites à la portion congrue. Alors, c'est un peu mécanique, lié à des circonstances. Il y a une dimension de contingence dans tout ça. C'est l'élection de 2017 qui s'est jouée dans certaines circonstances. Bon, très bien. Au-delà, je pense que ça correspond à l'épuisement d'une partie des raisons qui expliquaient cette opposition qui nous semblait si structurante de la vie politique et de notre manière de penser pendant des années. Et cet épuisement, j'en prendrais deux ou trois exemples. Typiquement, la chute du mur a quand même amené à décrisper un certain nombre de comportements relativement hystériques et à droite et à gauche. Donc ça, c'est derrière nous. Donc il n'y a plus de... Voilà. Ensuite, vous avez d'autres éléments qui sont entrés en ligne de compte, mais en tout état de cause, les raisons d'être de gauche ou de droite de manière très forte, que ce soit les messianismes qu'on a connus, que ce soit la nécessité vue de gauche de lutter, et on peut le comprendre, contre l'impérium du catholicisme il y a une centaine d'années, etc., etc., toutes sortes de déterminismes très forts du clivage se sont effacés, tout simplement. Et donc, oui, il reste une gauche et il reste une droite, mais compte tenu que ce centre est relativement large, à mon avis, l'un des sujets qu'il faut qu'on aborde, c'est que la gauche et la droite qui subsistent sont relativement hystérisées par rapport aux postures qu'elles avaient auparavant. C'est-à-dire, ce qui reste à gauche et à droite, ce sont des gens qui sont très religieusement de gauche ou de droite, respectivement.
Sauf à considérer, Philippe Manière, qu'il y a peut-être aussi de la droite, et peut-être aussi d'ailleurs de la gauche, dans la majorité aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
Bien sûr, évidemment. D'ailleurs, le président Macron dit lui-même qu'il est et de droite et de gauche. Et bien sûr, sa majorité est composite avec beaucoup de gens qui viennent de la société civile, quelques-uns qui viennent de droite, pas beaucoup, et pas mal qui viennent de gauche. C'est vrai. Mais ce ne sont plus des gens qui se présentent comme étant de droite ou de gauche. Alors, on va peut-être pas le faire maintenant, mais je pense que ça serait intéressant de faire une comparaison avec ce qui se passe aux États-Unis, où il y a une forme d'hystérisation aussi, d'hyperpolarisation, comme on dit là-bas, qui... quoi qu'ayant des explications très différentes et des traductions concrètes encore plus différentes, à mon avis, fait un peu écho à ce que je suis en train d'écrire s'agissant de la France.
Catherine Goliot.
Je ne suis pas tout à fait d'accord. D'abord parce que moi, ce qui me frappe, c'est que Marine Le Pen dit, par exemple, que pour elle, il n'y a pas de droite et il n'y a pas de gauche. Or, il me semble qu'elle est à droite. Donc il y a quand même aujourd'hui une utilisation du nini ou du refus de considérer qu'il y a un clivage qui repose sur la suprématie populaire, qui repose sur un certain nombre de valeurs, mais qui me semble être un colmatage marketing qui ne repose pas vraiment sur les aspirations et la sensibilité. Et j'insiste, je pense qu'il est très important de faire la différence entre les choix stratégiques, politiques, et puis qui peuvent avoir des résultats au niveau électoral, et on l'a vu avec En Marche, et les vraies sensibilités.
Mais on a quand même l'impression que cette façon de ne plus se revendiquer de droite ou de gauche, en tout cas de le faire beaucoup moins, c'est quelque chose qui est assez largement partagé, effectivement, du côté de la majorité. Alors, ni droite ni gauche, ou et de droite et de gauche, ce qui revient peut-être pas tout à fait au même, enfin, ce qui est assez proche. Vous évoquiez Marine Le Pen. Il y a aussi Jean-Luc Mélenchon qui, lui, en tout cas, préfère aller sur d'autres thématiques plutôt que de mettre en avant, en tout cas, son appartenance à la gauche. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que c'est une façon de se positionner qui est moins porteuse aujourd'hui sur le terrain politique, Catherine Goliot ?
Peut-être, mais est-ce que ce n'est pas un positionnement stratégique, là encore, donc à court terme ?
Oui, mais Oui, pardon, non, juste brièvement, pour prendre en quelque sorte Catherine Goulliot à sa propre analyse. Oui, ce sont des postures marketing en grande partie. La vie politique est toujours un mélange d'idéal et de combat tactique, évidemment. Mais précisément, si plus personne ou presque ne se revendique explicitement comme étant de droite ou de gauche, enfin de droite, vous avez évoqué le Front National, il y a quand même Laurent Wauquiez qui dit clairement qu'il est de droite, et à gauche, il reste évidemment un certain nombre de gens, mais ils sont très minoritaires. Si plus personne ou presque n'invoque le patronage de la droite éternelle ou de la gauche éternelle, c'est précisément parce que ça n'est pas payant, ça ne serait pas payant du point de vue marketing. Et donc, c'est bien la preuve que les acteurs mêmes du jeu politique font l'analyse que ce clivage n'est plus rentable parce qu'il est quasiment devenu inexistant. Bien sûr, dans la psyché, dans les sensibilités, il en reste d'innombrables vestiges. Mais on n'est plus du tout dans la situation où on était il y a 50 ans, évidemment, mais même seulement il y a 15 ou 20 ans, où clairement, quelqu'un pouvait généralement assez facilement dire qu'il était de droite et pas de gauche, ou de gauche et pas de droite. Et c'est pour ça que les jeux politiques se jouent autour d'autre chose que la droite ou la gauche, laquelle ne serait pas suffisamment, rapporterait pas suffisamment de voix, pour être très trivial.
C'est devenu moins payant aujourd'hui que de se revendiquer d'une de ces deux grandes familles, en tout cas de ce clivage-là ou de l'ancelin.
Ben, oui, c'est assez incontestable, mais tout ça n'est pas arrivé par hasard. Ce discrédit-là, il a été pensé, il est le résultat, le fruit de dizaines d'années de discrédit des mots de la gauche, par exemple, du mot prolétaire, du mot lutte des classes. Et tout ce vocabulaire-là passe extrêmement mal auprès des oreilles contemporaines. C'est incontestable. C'est la raison pour laquelle, je pense, quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon s'est réinventé à travers un nouveau concept, celui d'insoumission, d'insoumis, plutôt que d'employer le mot de gauche, même s'il se réclame toujours de l'histoire de la gauche. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on essaie de façon désespérée, dans tout le ventre mou dont parlait Philippe Manière, qui n'est pas si mou d'ailleurs, qui est assez dur, mais qui donc mord à la fois sur les Républicains et sur En Marche et sur le PS, on essaie d'imposer d'autres clivages. Alors ça peut être, au lieu de la droite et la gauche, ça va être les insiders et les outsiders, hein. Donc pour mettre les bénéficiaires des aides publiques, des aides sociales en position d'accusé dans le discours.
Outsider, c'est pas accusatoire, au contraire.
Dans le discours public.
On pourrait presque dire que c'est compassionnel.
Bah, disons que ça tend à faire croire que les chômeurs ou les précaires, ou les gens qui ont un statut sont des privilégiés. Or, souvent, ce sont des employés, des ouvriers, des gens qui ont des tout petits salaires et qui se voient pointer du doigt pendant que les profits du CAC 40, eux, augmentent. Donc, insider, outsider. Récemment, lors des vœux d'Emmanuel Macron à la presse, il y a eu encore une autre tentative de différencier les démocraties libérales des démocraties illibérales. Donc, d'imposer une espèce de nouveau clivage entre société autoritaire et société capitaliste de marché comme la nôtre. Ça peut être aussi, c'était avant cette offensive-là, c'était société ouverte et société fermée. Donc là, pour pointer les sociétés du type, les sociétés voulues par un mouvement comme le Front National, donc construit sur des différences identitaires marquées. Donc voilà, on voit bien que le système tâtonne pour ne surtout pas permettre au concept de la gauche et de la droite de se réimposer dans le discours public. Moi, personnellement, je le déplore.
Est-ce que pour autant, Catherine Goulliot, ces nouveaux clivages dont Aude Lancelin vient nous donner un certain nombre d'exemples peuvent malgré tout recouvrir ce qui distingue la gauche de la droite? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut émettre un parallèle, même si on n'appelle pas les choses de la même manière, mais si on se réfère un petit peu au texte, est-ce que ça recouvre quand même dans le fond ce que sont les clivages droite-gauche, ou bien est-ce qu'il y a une forme de confusion où certaines valeurs finalement se retrouvent plutôt, qui étaient plutôt à gauche, vont plutôt se retrouver à droite et inversement?
C'est un petit peu complexe. D'abord parce qu'on ne l'a pas dit, mais on a un petit peu arbitrairement appelé ce hors-série au point la droite, la gauche, mais on aurait dû l'appeler les droites et les gauches, déjà. C'est quand même un peu plus complexe. Ensuite, parce que ces tâtonnements dont parle Aude Lancelin recouvrent des valeurs qui... d'une certaine manière, recréent le clivage. C'est-à-dire, on sent le besoin de recréer le clivage. Est-ce que cela rejoint les valeurs de la droite ou des droites et de la gauche, c'est quand même plus compliqué. Par exemple, parmi les valeurs traditionnelles de la gauche, il y avait l'idée d'égalité, bon, de justice sociale. Effectivement, si on dit d'un côté il y a les insiders ou les outsiders ou ceux qui, ou en gros, on pourrait dire aussi ceux qui gagnent et les losers, on peut dire que les losers, c'est plutôt ceux qui ont bénéficié peut-être du welfare state et qui là aujourd'hui sont menacés.
De l'État providence, excusez-moi, qui là aujourd'hui sont menacés.
Et entre les sceptiques et les eurosceptiques, il y a ceux qui effectivement sont plutôt nationalistes et veulent défendre la France contre tout. Et contre l'Europe, et les autres qui sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus mondialisés, et qui recouvrent aussi généralement une sorte d'élite plus ouverte sur le monde et mieux nantie, si vous voulez, donc qui est plutôt à droite. Mais là, j'aurais peur de vraiment de caricaturer.
Philippe Manière.
Non, mais même sur ces clivages-là, c'est difficile de retrouver quelque chose qui corresponde à la droite et à la gauche. Enfin, typiquement, quand on parle d'international, c'est quand même pas un champ de droite, ou alors j'ai raté une marche. Et aujourd'hui, la gauche est plus hostile à l'ouverture des frontières qu'elle ne l'était avant, évidemment.
Ça dépend de quelle frontière, je pense. Mais, c'est-à-dire la circulation
justement, il y a 25 ans, la gauche était à peu près pour l'ouverture de toutes les frontières. Elle a mis beaucoup de temps à décider qu'il y avait un certain nombre de frontières qu'il fallait plutôt fermer. C'est une nouveauté vue de gauche. Pendant très longtemps, au contraire, l'idée de la fraternité universelle se déclinait en particulier dans l'idée que tous les échanges étaient bons, etc. Alors, bien sûr, il y a toujours eu, dans le mouvement ouvrier, une part de protectionnisme, pour appeler un chat à chat et pour faire un tout petit détour économique. Mais malgré tout, il y avait une idée d'ouverture. Aujourd'hui, on peine à la retrouver dans le discours, par exemple, d'un Benoît Hamon. Et donc, moi, je crois sincèrement qu'on peut dire que c'est dommage que ça ait disparu. Je comprends tout à fait le point de vue d'Aude Lancelin. Je ne crois pas qu'on puisse dire, en revanche, autre que quelqu'un a eu intérêt à faire disparaître ça et il travaille avec acharnement et avec un succès que vous regrettez. C'est juste une évolution qui tient, encore une fois, à mon avis, à des données quasiment exogènes, celles que j'ai évoquées, chute du mur, etc. Peut-être d'autres aussi. Typiquement, quand on parle de redistribution de justice sociale, enfin, la France n'est évidemment pas du tout dans la même situation que dans les années 50 ou 60. Le niveau de redistribution a augmenté dans des proportions très considérables, ce qui est d'ailleurs principalement un bien, évidemment. La question est de savoir si on peut pas plaider que ça va trop loin, ce que plaident un certain nombre de gens, mais en tout cas, on peut pas dire aujourd'hui qu'on est dans la même situation que dans les années 50 où les sans-logis, comme on disait, étaient des millions pratiquement. Les mal-logés, en tout cas, étaient des millions. Et donc, un certain nombre d'arguments en faveur d'une redistribution très active qu'il fallait augmenter au nom de la justice se sont épuisés parce que les faits, heureusement, ont permis qu'une partie de cette justice soit advenue, en quelque sorte. Donc, encore une fois, moi, on peut être nostalgique de la sémantique, on peut avoir ses sensibilités, mais on ne peut pas nier qu'il y a d'assez bonnes raisons pour qu'une grande majorité des Français, aujourd'hui, soit plus pragmatique, moins engagé, ni à droite ni à gauche, et que ça donne en quelque sorte le macronisme que vous n'aimez pas, ce que je comprends parfaitement bien. Et moi d'ailleurs, j'en suis pas amoureux sans limite, évidemment.
C'est pas une affaire de goût personnel.
Mais ça n'est pas une espèce de méchant génie qui essaierait d'abolir tous les matins en se levant tôt pour être sûr d'y arriver la droite et la gauche. C'est les gens qui pensent, voilà.
Non, il s'agit évidemment pas d'imaginer une volonté intentionnelle, un complot ou Dieu sait quoi, si c'est ce que vous pointez.
Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le système essaye de, etc.
Non, je suis désolée, c'est absolument pas ce que je disais. C'est un système économique qui s'appelle le néolibéralisme et c'est une explosion mondiale des inégalités. Je vous renvoie aux travaux de Thomas Piketty dans le Capital au XXIe siècle, qui est tout sauf un extrémiste. Je suis désolée. Vous dites que les gens sont mieux logés, moins pauvres, etc. Regardez la situation en Allemagne. Regardez la situation où il y a une explosion du nombre de travailleurs pauvres. Donc, ne me dites pas, ne me prêtez pas, une fois de plus, pour clore tout débat, je ne sais quelle forme de complotisme. Non, nous avons un véritable problème politique qui se pose dans le pays, du fait, justement, de la progression et de l'émergence de ce trou noir, de cet extrême centre, pour reprendre le concept du philosophe canadien Alain Deneau, qui en fait unit la droite et la gauche. Et ce problème, par exemple, c'est que la classe populaire, la classe ouvrière, n'est plus représentée dans l'échange politique, dans le champ politique. On disait avant l'élection présidentielle de 2017, les ouvriers votent à droite, etc., à l'extrême droite. En réalité, même ça, c'est inexact. 61% des ouvriers dans ce pays ne votent plus du tout. 16% votent Front National, 13% votent pour la gauche. Donc on a, au fil des années, et je crois que pour un corps démocratique, un corps politique, c'est dramatique. On a laissé totalement dériver les catégories déshéritées de la population. On ne peut pas le nier et on ne peut pas s'en féliciter.
Ce qui est étrange finalement peut-être dans la situation actuelle, c'est de voir, alors toujours à propos de ces termes, hein, la droite, la gauche ou les droites, les gauches, mais de voir à quel point effectivement elles semblent devenues presque un petit peu désuètes, même si ça existe toujours et les valeurs qui y sont associées existent évidemment toujours. Mais quand on regarde sur le plan historique, Catherine Goliot, on peut quand même constater que ce qui constitue et les droites et les gauches, ça a constamment évolué, même peut-être pas. Alors, je ne sais pas si ça a évolué de la manière dont ça l'a fait ces dernières années, mais ça a quand même évolué. Et on pourrait quand même toujours garder cette grille de lecture-là, même si on y associe peut-être des valeurs qui ont un petit peu changé.
Ce qui, prenons par exemple les libéraux. Les libéraux, ils ont d'abord été à gauche. Quelqu'un comme Tocqueville, par exemple, voulait absolument être à gauche, alors qu'aujourd'hui on le considère plutôt comme un penseur de droite. Constant était un homme était à gauche.
Tous les grands libéraux siégeaient à gauche à l'Assemblée quand ils étaient élus et se regardaient comme étant de gauche.
Ils étaient à gauche. Parce que aussi le libéralisme et la conception du libéralisme a évolué, parce que l'économie a évolué, la société a évolué, ils sont considérés aujourd'hui comme des gens de droite. Vous disiez tout à l'heure que l'international n'était pas à droite. On doit quand même, il y a un certain nombre de personnalités de droite d'avoir défendu l'Europe, d'avoir défendu la mondialisation beaucoup plus que la gauche. Je pense que si. Il y a des valeurs, par exemple, comme le nationalisme, qui a beaucoup évolué. Au départ, il était à gauche, il était même très à gauche, et puis il est passé à droite, même tellement à droite qu'il est même devenu presque allemand pendant une période de notre histoire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a à nouveau une réflexion sur l'identité qui a fait qu'à un moment donné, Mitterrand, c'est le Parti socialiste qui a défendu l'identité. Et vous voyez, donc, c'est vrai qu'au cours de l'histoire, les valeurs changent. On voit aussi des notions ou des attitudes passées de droite ou de gauche ou d'être partagées tout simplement par la droite et par la gauche.
Est-ce que ça suppose qu'aujourd'hui, il y a un travail nécessaire qui consiste, alors ça peut peut-être paraître extrêmement scolaire, mais à se redire, qu'est-ce qui est constitutif de ce qu'on appelle la gauche et qu'est-ce qui est caractéristique de ce qu'on appelle la droite? C'est quoi, par exemple, quelque chose, une valeur ou un principe pour vous, Philippe Manière, qui appartiendrait de manière exclusive à la gauche et même chose pour la droite?
Il n'y en a pas. Je ne vais pas faire le coup du monopole du cœur, mais enfin, il y a des gens de droite qui ont un peu de goût pour la justice et il y a des gens de gauche qui ne sont pas totalement hostiles à la liberté, évidemment. S'il fallait malgré tout trouver une ligne de crête, en tout cas un critère sur lequel on puisse distinguer la gauche et la droite aujourd'hui, sur la base des dernières évolutions de la vie intellectuelle, je dirais que c'est sans doute la question de tradition contre modernité, qui alors pour le coup renvoie à toute une histoire ancienne de la gauche et de la droite.
Et alors la tradition,
moi,
elle
est
où, à gauche ou à droite ?
Aujourd'hui, quand vous voyez, alors d'ailleurs ils sont décrits maintenant comme étant de droite pour certains d'entre eux, alors que très longtemps on a pensé qu'ils l'étaient pas, peu importe qu'ils le soient ou pas d'ailleurs, mais quand vous voyez ce que disent des Mathieu Bock-Côté, quand vous voyez ce que disent un Alain Finkielkraut, souvent sur votre antenne. On a une vision du monde qui est pessimiste parce que nourrie par un rationalisme déçu, en quelque sorte. C'est-à-dire que ce sont des penseurs qui considèrent qu'on est en train de trahir quelque chose qui faisait la fierté de l'homme et qui était la tradition. La tradition avec son exigence, l'effort, etc. Alors ça peut aller jusqu'à la contestation, par exemple, du mariage gay. Donc la tradition, c'est très large. Mais moi, j'ai cité les gens qui ne sont pas sur des visions, comme on dit, quasi-religieuses, qui sont plutôt sur des visions nostalgiques d'une sorte d'âge d'or de la raison, voilà, et qui conteste le politiquement correct et ses abus, etc., etc. Et puis à gauche, on a en revanche sur cette ligne de clivage là des gens qui pensent que beaucoup de progrès reste à faire sur le plan social et qui sont favorables à tout ce qui est inclusion, faveur donnée à certains groupes, etc., etc. Je pense que c'est aujourd'hui, à mes yeux, le clivage qui est le plus pertinent si on cherche désespérément, parce qu'à mon avis, c'est pas facile, un clivage gauche-droite encore pertinent dans la vie intellectuelle et dans la vie politique à certains
égards. Mais en fait, c'est le clivage entre progressisme et conservatisme qui est finalement assez, comment dire, ancien.
Oui, c'est ce que je disais. Dans le fond, ça fait vraiment écho, effectivement, aux origines de l'opposition gauche-droite, mais pendant longtemps, on n'était plus tellement sur cette incarnation-là du clivage. Il me semble qu'on y revient. Et qu'on le voit très bien, par exemple, sur des questions comme l'éducation ou comme les minorités, etc.
Même question à Aude Lancelin et ensuite à Catherine Goliot. Aude Lancelin.
Non, mais c'est incontestable qu'il y a une recomposition actuelle totale de ce clivage hein, essentiel à la pensée et à la politique. Philippe Manière, tout à l'heure, plus loin dans notre discussion, parlait du rapport de la gauche à l'internationalisme. C'est vrai qu'il est actuellement, il y a des déplacements énormes en cours qui sont absolument cruciaux et qui interdisent même au camp de gauche actuellement de se réunifier. Ouais. Une des vraies raisons de l'hostilité entre la France insoumise et ce qui reste et génération de Benoît Hamon ou ce qui reste du PS passe par la question européenne précisément, parce que du côté de la France insoumise, il y a quand même l'idée qu'il faut réintroduire une forme de souverainisme pour protéger les économies nationales, tandis que cette idée-là principalement est intolérable à la plupart des électeurs de génération, par exemple. Donc ce sont effectivement des questions assez dramatiques en ce moment pour le camp de gauche. Maintenant, moi, la pire façon de reconfigurer tout ça, ce serait d'accepter, bien sûr, la différence entre progressiste et conservateur. Moi, évidemment, en tant que admiratrice de Rousseau, qui à gauche était à la fois le plus radical et en même temps qui a mené une critique implacable de la notion de progrès, on peut pas considérer que nous marchons vers un avenir radieux, inéluctablement, etc., et que toute évolution en soi est nécessaire et souhaitable. Donc, bon, le critère de la justice sociale reste le seul qui soit véritablement pertinent, je pense, pour déterminer ce qui est un ethos de gauche et un ethos de droite. Et c'est vrai que l'idée de réintroduire un équilibre entre le coût, entre le travail et le capital, hein, me semble absolument essentiel si on veut vraiment définir ce qu'est aujourd'hui encore la gauche.
La ligne de fracture, vous la situeriez où, Catherine Goliot ?
C'est vrai que la justice sociale, ça me paraît être un point pertinent. En tout cas, moi, je vois une différence nette entre ceux qui défendent une société très libérale, très ouverte, plus individuelle, où les gens ont la capacité de prendre des risques, vont payer moins d'impôts, et puis ceux qui défendent un État où il y aurait beaucoup plus d'égalité, notamment au niveau des richesses, entre les individus, et où l'État serait beaucoup plus redistributif. Là, je pense que ce clivage-là, il demeure, et que le côté redistributif, il est plus à gauche. Et je vois, moi aussi, un autre clivage important, c'est celui de l'égalité, et notamment au niveau de l'éducation. C'est-à-dire que le refus de la sélection à l'école, la volonté de donner à tous une éducation qui soit la même et qui donne à chacun ses chances, quitte à laminer un petit peu les élites ou les plus brillants, ça me semble relever plutôt de la gauche que de la droite.
C'est vrai que l'éducation a peut-être cette vertu-là que de permettre justement de repenser les clivages en fonction justement de cette grille de lecture qu'est la droite et la gauche. C'est-à-dire le débat sur l'éducation, même si on dit beaucoup, on entend beaucoup qu'aujourd'hui l'actuel ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, arrive à être assez consensuel. Je ne suis pas sûr que ça soit autant le cas que ce qui en est dit. Mais Philippe Manière, en tout cas, c'est vrai que sur le terrain de l'école et de la politique éducative, là, on a de vrais clivages et qui sont de vrais clivages droite-gauche.
Je vous l'ai dit moi-même, je pense que c'est un des terrains sur lequel se joue aujourd'hui le clivage. Avec, cependant, s'agissant de la France, et on pourrait dire la même chose d'ailleurs s'agissant de ce que Catherine appelait la justice sociale. On est en quelque sorte dans une situation piégeuse pour la gauche parce que les 25-30 dernières années, dans les politiques publiques correspondant à l'éducation d'une part et à la justice sociale d'autre part, ont fait apparaître des effets pervers, ont montré que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Enfin, une des raisons pour lesquelles Blanquer est soutenu, bien sûr, principalement par la droite, mais aussi par une partie de la gauche, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la bureaucratie et l'idéologie de l'éducation nationale se sont combinées pour qu'elle ne livre pas ce dont elle avait fait la promesse. Elle ne livre pas si bien qu'il y a 30 ou 40 ans, elle ne tient pas si bien qu'il y a 30 ou 40 ans cette promesse d'égalité, d'accès, d'abolition des différences, de promotion sociale. Elle n'en est pas capable. Alors, il y a des tas de raisons, encore une fois, exogènes. La société, les jeux vidéo, la télé, on peut invoquer tout ce qu'on veut. Mais il n'empêche que c'est très difficile aujourd'hui, à mon avis, si on est sincèrement de gauche sur le sujet de l'éducation, de dire que ce que la gauche a mis en place au fil du temps, aujourd'hui, la machine qu'on a, elle est très fortement imprégnée par une vision de gauche. Les gouvernements successifs sont beaucoup intéressés à l'éducation quand la gauche était au pouvoir. On ne peut pas dire que ce dispositif fonctionne. Et donc, au regard même de l'intention, qui est principalement une intention de gauche, enfin à laquelle, très sincèrement, il est difficile de plaider que la droite ne souscrit pas principalement, au regard même de l'intention qui avait fait naître cette belle machine, belle dans le projet, on est obligé de constater que le résultat est catastrophique. Et c'est là où je comprends que ce soit difficile, mais on pourrait dire exactement des choses symétriques s'agissant de la droite, hein, mais c'est bien sûr très difficile pour la gauche de trouver un nouveau terrain de jeu, puisque en allant jusqu'au bout de ce qu'elle recommandait, s'agissant par exemple de l'éducation, mais on pourrait dire la même chose encore une fois sur la justice sociale, on arrive à un résultat qui n'est pas convaincant, au regard même de l'intention et du projet, aussi noble soit-il.
Aude Lancelin, vous disiez tout à l'heure au début de l'émission qu'il y avait un certain nombre de termes à gauche qui avaient fini par être déconsidérés. Mais il s'est aussi passé un autre phénomène ces dernières années. Alors on qualifie de triangulation, notamment sur le vocabulaire, c'est-à-dire l'appropriation de certains thèmes, alors de thèmes de gauche par la droite, et puis peut-être aussi inversement, par exemple la question de l'autorité. On voit bien que certains à gauche ont pu être tentés par ça, mais si on se souvient de ce qu'a été la campagne de la présidentielle de 2007 avec Nicolas Sarkozy qui citait Jaurès, par exemple, dans ses discours, on voit bien qu'il allait quand même emprunter des choses dans une autre tradition. Est-ce que tout ça aussi, c'est-à-dire toutes ces stratégies-là, ont contribué à la confusion dans laquelle on est aujourd'hui?
Oui, oui. Et puis vous auriez pu mentionner aussi le phénomène Ségolène Royal, oui, qui est quand ça. Même un apex politique très étrange. Hein, l'idée d'ordre juste, tout ça, c'était quand même très hétérogène à l'histoire de la gauche. Mais je ne pense pas que ce soit le fond du problème. Qu'un politique, par opportunisme, cite un auteur du camp d'en face, que ce soit Guy Môquet, on se souvient, Jaurès, etc. Finalement, au bout d'un moment...
C'était peut-être pas que de l'opportunisme, hein. Il y avait peut-être aussi de la sincérité dans ces...
Les choses reviennent... Non, mais il y a surtout un calcul politique qui s'est avéré payant. Voilà, puisqu'il fallait quand même aller mordre...
Il a été battu aux élections, je vous rappelle. Quoi.
En 2007.
Super payant.
En 2007.
En 2007, il a gagné.
Oui, oui, non, mais Guy Môquet, ouais. C'était après. Donc, ça lui a pas permis d'être élu, pardon.
Guy Môquet, c'était une fois qu'il était président, c'est ça?
Je pense qu'il avait voulu instaurer cette... C'est ça qui lui a été fatal. Mais il est certain, en tout cas, pour revenir à la situation présente, que Laurent Wauquiez est face à un défi... colossal pour justement recliver, recréer du conflit et un camp de droite. Et j'ai bien peur que la solution pour lui ne passe justement par les questions identitaires, puisque ce sera la seule façon de se démarquer décisivement du camp Macron, puisque sur les questions des réformes économiques, ils sont à peu près d'accord sur tout. Et là, ce sera absolument catastrophique pour le pays. Pays qui est déjà abîmé depuis 2015 par une vague d'attentats, par une situation quand même identitairement incertaine et fragile. Et je pense qu'à ce moment-là, on se rendra compte que l'expérience Macron a été quelque chose de aux conséquences assez ravageuses pour le pays.
Ce que vous voulez dire, c'est que cette expérience Macron, elle oblige la droite qui ne participe pas à cette expérience à se radicaliser encore plus pour se distinguer.
Je pense que c'est incontestable, c'est ce qui va se passer. La droite libérale se décompose à vue d'œil ou rejoint le camp macronien, et donc il restera les souverainistes extrémisés, Et les gens qui sur la question du combat culturel et des musulmans sont des radicaux et des gens dangereux.
Vous partagez cette analyse, Philippe Manière ?
À certains égards, oui, mais je reviens à ce que je disais, je crois, au tout début de l'émission, c'est-à-dire qu'on peut dire ça de la droite, on peut le dire aussi de la gauche. À partir du moment où une grande partie, si vous voulez, le centre attire par définition les gens qui sont les moins intransigeants sur leur posture de droite ou de gauche, respectivement. Et donc, à partir du moment où le centre est devenu si impérial, dominant, par nécessité, ceux qui restent sont les plus intransigeants, à gauche comme à droite.
Catherine Goliot, on a évoqué à l'instant donc Laurent Wauquiez. Dans quelle tradition de la droite on pourrait l'inscrire si on se réfère à quelques-uns des textes que vous proposez dans votre hors-série ?
C'est un petit peu compliqué parce qu'il est très flexible malgré ses positions de droite.
Vous pouvez le trouver à différentes paternités ou maternités d'ailleurs.
Il récupère, quand il essaie de se rapprocher du Front National, il est clair qu'il est dans une tradition qui est plutôt la tradition. Alors, je suis peut-être excessive, mais enfin, il y a Maurras, il y a Bonald, il y a ce qu'on a pu appeler par le passé les légitimistes, et puis qui se sont révélés ensuite des populistes dangereux dans les années 30 et pendant la guerre, quoi. Mais bon, peut-être que là, je dépasse mon rôle de journaliste. Il est quand même extrêmement opportuniste, donc finalement, il a des attitudes très très dures qu'il rapproche du Front National, notamment sur la France, sur la nation, sur l'identité, sur l'économie. Là, je pense que Philippe Manière serait plus compétent que moi. Je vois pas trop.
Il a pas l'air d'avoir d'autres
idées.
Prenons un autre exemple. Tiens, Emmanuel Macron. Alors, est-ce que lui a la même flexibilité que Laurent Wauquiez et pourrait justement, dans certains domaines, appartenir plutôt à telle tradition que dans d'autres?
Alors, moi, mon analyse personnelle, et notamment après avoir lu ces textes, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron est un homme de droite au niveau économique, c'est absolument évident, mais qu'au niveau culturel, c'est plutôt un homme de gauche, c'est-à-dire qu'il a une certaine ouverture qui est plus, à mon avis, une ouverture de gauche, et que
donc il incarnerait en lui-même le clivage droite-gauche, c'est-à-dire voilà, non, un peu les deux.
Je pense qu'il a bonne part d'opportunisme lui aussi, mais au niveau économique, il est très libéral.
Non.
Si, je trouve.
Non. Pas dans sa pratique. Tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant est extrêmement modéré par rapport à ce que mettrait en œuvre un vrai gouvernement libéral, je vous l'assure.
Il est peut-être pas ultra libéral, c'est peut-être pas un héritier exactement de von Hayek, quand même, il a quand même des prises de position par rapport à la tradition économique française qui sont plutôt libérale, et d'ailleurs je pense que c'est aussi en grande partie pour ça que les gens de droite ont voté pour lui. Peut-être étonnant, mais moi je trouve qu'il a un côté, et c'est un mélange de Clémenceau, parce qu'il peut être quand même assez autoritaire, il a un mélange de Mendès France parce qu'il parle franc, et il a un côté traditionnel, républicain, pas républicain, excusez-moi, j'ai des bêtises, mais par ses choix économiques, pour moi, c'est un libéral. Voilà.
Paul Lancelin.
Et de Dieu et de Bouddha aussi. Non, écoutez, franchement, avant l'élection, je peux comprendre ce qui vous permet de dire qu'il y avait chez certains l'idée qu'Emmanuel Macron, sur les questions sociétales, pouvait être progressiste et libéral. Après l'élection, je ne vois pas un seul fait qui permet d'étayer, malheureusement, cette idée. La ligne dure a été choisie concernant les migrants. C'est même dénoncé par des gens de son camp, par le défenseur des droits comme Jacques Toubon, qui n'est pas exactement un gauchiste également.
Il va y avoir la révision des lois bioéthiques. Peut-être que ça contribuera à confirmer cette orientation aussi
un
peu libérale sur les mers.
On verra. Il y a tout un climat aussi dans le pays. On l'a vu encore avec cette histoire de commémoration nationale autour de Charles Maurras. Et on peut pas absolument pas dire qu'Emmanuel Macron, sur les questions sociétales, soit de gauche. Même si, il y a encore, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais fin 2016, Macron se réclamait encore sur l'antenne de France Inter de la gauche du réel, de celle de Mendès France, de celle de Rocard. Je crois que ça a été un attrape-mouche très efficace pour l'élection présidentielle qui a servi à attraper plein d'électeurs du Parti Socialiste, mais que l'illusion s'est dissipée ultérieurement.
Juste puisque vous évoquiez Maurras, je renvoie à un précédent épisode du Club des idées du Grain. Ça avait fait l'objet d'un débat il y a quelques semaines de cela. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été présents ce soir. Philippe Manière, Aude Lancelin et Catherine Goliot. Je rappelle, le hors-série du Point, la droite, la gauche, les grands textes. C'est l'édition mars-avril 2018 et donc on peut évidemment toujours trouver en kiosque. Merci à vous. Merci également à toute l'équipe du Grain, Antoine Dulster, Marine Beccarelli, Zod Sicard, Antoine Tricot et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Philippe Mercher, Stéphane Touvenin et Célia Dufour. Dans 3 minutes, ce sera la dispute avec Arnaud Laporte qui est en train de regarder la pendule et qui va confirmer. Alors on va ouvrir son micro car on ne vous entend pas.
C'est ouvert effectivement, voilà ce qui est le cas dans 3 minutes. La dispute cinéma et demain midi on retrouve un jeune qui monte, Hervé Gardette, pour l'émission politique au programme.
C'est le congrès du FN, alors qui veut encore du Front National? On en discutera avec l'historien Nicolas Lebourg.
Merci beaucoup Hervé Gardette. Tout de suite les titres de l'actualité avec Mathieu Laurent.